Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons les CMA de Limoges pour une émission sur l'éducation populaire et la participation des publics. Nous sommes Sarah et Seth, vos présentateurs pour cette émission. Tout d'abord, qu'est-ce que les CMA? Quel est son acronyme et qui sommes-nous?
Alors, donc les CMA, autrement dit Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, il s'agit d'une association d'éducation populaire complémentaire à l'enseignement public. C'est reconnu depuis 1966, donc ce sont des infos issues des cma.asso.fr. Nous sommes donc la promotion 2025-2026 regroupant 15 futurs animatrices dont les publics sont distincts et propres à chacun. Tout public est envisageable selon la demande. Maintenant, revenons sur l'éducation populaire. Concrètement, qu'est-ce que c'est?
À vrai dire, il n'y a pas vraiment de définition à proprement parler ou définie. C'est un courant d'idées et de pratiques pour permettre à toutes et à tous de trouver sa place de citoyen et de s'épanouir. Autant dire une éducation du peuple par le peuple.
Pour alimenter ces sujets, nous commencerons par une interview faite par Morgane, puis nous aurons une chronique réalisée par Bérangère, Kat, Catherine et Sandrine. Nous retrouverons ensuite Fanny, Justine et Mao pour un documentaire et nous finirons avec Hugo, Matisse et Raoul pour un micro-trottoir. Place maintenant à l'interview avec Morgane.
Et bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Stéphanie Magne, qui est présidente bénévole des CMA Nouvelle-Aquitaine et aussi employée en tant que chef de projet à la Cité éducative de Limoges. Déjà pour commencer, comment allez-vous?
Bonjour à tous, merci, je vais bien.
Super, bon c'est là, on espérait entendre ça, je vous avoue que... Donc merci d'être avec nous, de répondre à nos questions. Vous êtes présidente depuis 2020, militante des CMA depuis 30 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette aventure?
Alors au départ, c'est une aventure qui commence par un stage BAFA, donc pour devenir animatrice. J'avais 17 ans et petit à petit, je suis rentrée dans l'animation. J'ai fait de l'animation l'été en parallèle de mes études. Et puis, je suis devenue formatrice au CMA et petit à petit, une envie d'engagement un petit peu plus loin. À l'époque, au CMA Limousin, puisque c'était la région Limousin. Et depuis 2016, nous sommes en Nouvelle-Aquitaine et depuis 2020, je suis présidente de cette association.
Oh, super. Vous dites, pendant vos études, nous, on sait que vous avez été enseignante. C'était lors de ces études-là?
Oui, j'étais enseignante avant de changer, enfin de rester dans l'éducation nationale, toujours avec un statut d'enseignante, mais sur un poste, sur une mission qui est particulière.
D'accord, ok. Du coup, là, la petite question en rapport avec ça que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez pu intégrer les méthodes de l'éducation populaire, et allier l'éducation nouvelle dans votre manière de travailler quand vous étiez justement enseignante?
Alors oui, bien sûr, avec une envie de... Alors l'éducation populaire, c'est surtout aussi changer ce regard de... Il n'y a pas un sachant et des élèves ou des apprenants, il y a bien des apprenants, mais tous les apprenants peuvent aussi être les acteurs sachants et peuvent apporter aux autres. Donc c'est vraiment aussi faire profiter les uns et les autres des compétences de chacun et de mettre en place des pédagogies qui permettent cela. Par exemple, de travailler en groupe. Dans un groupe, il y a des compétences qui sont différentes selon les enfants. Et on peut mettre en place, c'est une éducation populaire.
Et quel âge avez-vous eu? Est-ce que c'était de l'enseignement en primaire, collège?
Alors, j'étais enseignante professeur des écoles, donc de la maternelle, petite section, jusqu'au CM2. J'ai eu toutes les tranches d'âge.
Et est-ce qu'on l'applique de la même façon à toutes les tranches d'âge?
On peut appliquer l'éducation populaire à toutes les tranches d'âge, alors pas forcément exactement de la même façon sur toutes les tranches d'âge, mais des méthodologies peuvent être appliquées avec des tout-petits et avec, évidemment, avec les CM2, on va un peu plus loin et on peut avoir des ambitions un peu plus grandes. Par exemple, on peut demander des exposés qui vont être travaillés à plusieurs.
Et est-ce que ça a été propre à vous ou est-ce que vos collègues aussi ont pu intégrer un petit peu ces enseignements-là?
Alors, ça a été selon les équipes. Il y a des enseignants qui adhèrent plus ou moins à ces pédagogies. Et donc, c'est selon les équipes. On peut tomber dans des équipes où on va travailler plus souvent avec ses collègues, et même en partageant des temps ensemble, des temps de classe ensemble. Et d'autres fois, on va être un peu seul dans l'école et porter ça. Cela permet aussi aux enfants de découvrir des façons de travailler différentes. Et je pense que c'est enrichissant aussi qu'ils vivent des choses différentes.
Super, merci beaucoup. On a, nous, pu constater en tant que professionnels et aussi en tant que parents que des fois, il était compliqué, en fait, justement, d'allier l'école et, par exemple, les services périscolaires. On voit que c'est un lien qui est un petit peu fragile. Comment on peut expliquer que ce soit si tranché?
Alors, pour beaucoup d'enseignants, l'animateur reste un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure quand moi, j'ai débuté, où c'était un petit peu le petit boulot en marge des études et pas avec une professionnalisation. L'animateur volontaire avec un BAFA qui fait ça pendant ses études. Petit à petit, il y a eu la professionnalisation des animateurs qui a fait monter en compétence ces personnes qui interviennent auprès des enfants. Et c'est de moins en moins un job d'appoint. Et par contre, dans le regard des enseignants, cette professionnalisation-là n'est pas passée. Et il y a encore cet a priori que l'animateur n'est pas un éducateur, mais est un animateur et fait de la garderie, pas de l'éducation.
Super, merci. Là, dans le populaire, tout récemment, en décembre 2025, vous avez indiqué, là, en tant que chef de projet de la cité éducative, que le premier objectif était de conforter le socle de l'école, le second est d'ouvrir le champ des possibles, et enfin de renforcer la cohésion éducative, et que ça marchait en démultipliant les partenariats. Est-ce que c'est un objectif que vous avez pu atteindre ou commencer à atteindre?
Alors, ce sont les objectifs de la cité éducative, oui, de Limoges. Ce sont des objectifs nos projets sont majoritairement des projets qui sont coportés. C'est un argument pour obtenir une validation de ces projets. Et donc, nous avons l'ambition que les différents acteurs sur le même quartier puissent travailler ensemble pour justement décloisonner l'école et aussi le regard qui peut être porté par les enseignants sur toutes les professions qui ont aussi ce lien avec les enfants, les élèves, les jeunes, et qui ont aussi, sur d'autres moments, pas les moments de l'école, un regard sur l'éducation et qui font de l'éducation.
Ça va faire un peu lien en fait avec la chronique qui va arriver juste après. Donc je vais avoir deux petites questions qui sont en rapport avec ça. Les zones urbaines ont-elles plus accès à l'éducation populaire que les zones rurales? Ou est-ce que c'est plus mis en place dans les zones urbaines que dans les zones rurales?
Alors je pense que il n'y a pas une généralité sur ce point. Je pense que les zones urbaines peuvent avoir un milieu associatif développé et aussi un certain nombre de structures qui existent traditionnellement dans les zones urbaines, des centres sociaux, des maisons de la jeunesse, de la culture, et qui ont cette appétence vers l'éducation populaire. Mais les zones rurales ont aussi beaucoup d'associations. Et peuvent aussi développer, et par exemple en Creuse, le réseau associatif creusois est très très riche, et pourtant on est loin d'une zone urbaine.
Du coup, pas de zone géographique qui mène plus à l'éducation populaire, c'est plutôt ceux qui s'investissent dedans?
Oui, je pense.
D'accord, super. Et bien, du coup, c'est à vous.
Merci beaucoup pour cette interview. Maintenant, on va laisser suite du coup à la chronique L'éducation populaire, la révolution tranquille des campagnes.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les man, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose. Le parfum d'une
bien floriste et corde vocale.
Pas de boulot,
pas de diplôme, partout la même odeur de zone.
Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient, va vite faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas si tu n'as rien.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'après vous, pourquoi l'hymne de nos campagnes? Eh bien, parce que tout simplement aujourd'hui, avec mes trois acolytes de la team du BPJEPS de Séméa de Limoges, on va vous parler d'un truc incroyable.
De quoi tu veux nous parler? Une nouvelle appli?
Eh non, Cathy, ce n'est pas la dernière application à la mode qui vous promet de changer de vie en 7 jours, ni un nouveau régime miracle. On va vous parler, écoutez bien, de l'éducation populaire qui fait du bien dans nos campagnes. Oui, oui, restez avec nous, c'est beaucoup plus fun que ça en a l'air.
Alors bon, on est d'accord, rien que le nom, ça sent la salle des fêtes, la kermesse et la tarte aux pommes maison. Mais derrière les lotos, les ateliers cuisine, tricot, il y a du solide. Soutien à la parentalité, activité pour les enfants, animation pour les ados, projet intergénérationnel, bref, du lien social en circuit court dans nos campagnes. Ici, on recycle les idées et on cultive la solidarité. Pour ceux qui sont intéressés par ces associations, allez faire un tour sur leur site www.famillerurale.org.
Parce que l'éducation populaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un cours du soir où on apprend à devenir populaire. Ce n'est pas non plus une matière du bac, c'est une idée simple. Apprendre ensemble, partout, tout le temps, et pas seulement à l'école ou à la ville. Dans la campagne, autour de Limoges, ça vit, ça bouge, et ça discute ferme autour d'un café. Sandrine, un autre pilier historique dans ce monde de l'éducation populaire en milieu rural. Qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors moi, Catherine, je vais vous parler de la Ligue de l'enseignement. Créée au 19e siècle, oui, à l'époque où on écrivait encore des lettres à la plume, la Ligue de l'enseignement défend l'idée que la culture, le débat, la citoyenneté, ce n'est pas réservé à une élite urbaine. En Haute-Vienne, elle accompagne des associations locales, organise des formations, soutient des projets culturels et propose des activités éducatives, sportives et de loisirs. D'une façon plus générale, la Ligue de l'enseignement met de l'huile dans les rouages de la démocratie rurale, sans bruit, mais efficacement. Elle fait du bien à nos campagnes. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter leur site www.laligue87-fol.org ou leur page Facebook Ligue de l'enseignement /folle87.
Alors oui, on parle d'efficacité. Bérangère, toi, tu as une autre association qui pratique l'éducation populaire dans les zones à faible densité.
Oui, tout à fait. Il y a aussi les centres sociaux. Ces lieux qu'on découvre parfois par hasard en cherchant un atelier théâtre pour son enfant et où on finit par rester 3 heures à discuter. Les centres sociaux, c'est un peu le salon collectif du village. On y trouve plusieurs ateliers numériques pour comprendre enfin comment marche cette fameuse mise à jour. Des débats citoyens, des activités pour tous, du soutien scolaire, bref, c'est l'endroit où l'on apprend à faire ensemble. En tout cas, pour plus de renseignements, je vous laisse l'adresse du site du Conseil départemental de la Haute-Vienne, qui est le suivant, www.haute-vienne.fr.
Alors l'éducation populaire, au fond, c'est ça. Ce n'est pas « je sais, tu écoutes », c'est « on cherche, on comprend, on construit ». Et dans les campagnes, c'est essentiel. Parce que quand l'école est à 15 km, que le cinéma le plus proche est à 30 et que la fibre arrive, un jour peut-être, ces associations deviennent des moteurs de vie locale. Elles ne font pas que proposer des activités, elles créent devinez quoi ? Du pouvoir d'agir. Et ça, c'est peut-être la plus belle définition de l'éducation populaire. Permettre à chacun de ne pas être simple spectateur de sa vie, mais acteur. Même sans projecteur, même sans tapis rouge, parfois juste avec une table pliante et une cafetière. Une association propose une activité, l'éducation populaire en fait un outil d'émancipation collective. Alors la prochaine fois que vous voyez une affiche pour un atelier débat ou tricot, pour une fête au village ou une réunion associative, poussez la porte. Parce qu'ici, le laïc, il se fait en vrai, avec une poignée de main et parfois une part de clafoutis. Vous n'apprendrez peut-être pas à devenir populaire, quoique, mais en tout cas, vous apprendrez à partager des valeurs communes. Et franchement, c'est encore mieux. Belle journée à tous avec l'éducation populaire et la team CMEA.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les man, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose.
Et nous revoilà avec Stéphanie pour lui poser une petite question pour permettre de lancer nos amis du documentaire cette fois-ci. Ce sera sur plutôt portée handicap. Donc ce serait comment favorise-t-on l'inclusion des personnes en situation de handicap ?
Vaste question. Pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées, déjà il faut les accueillir, il faut, faut permettre cet accueil avec des moyens... effectivement humain, mais aussi les moyens techniques, et réfléchir aux activités que l'on propose qui vont pouvoir à toutes les personnes de trouver une activité possible.
Est-ce que quand on pratique l'éducation populaire, est-ce qu'on peut penser que ça suffit à garantir une véritable égalité des chances ?
Alors l'éducation populaire, garantir l'égalité des chances, permet l'égalité des chances, mais en promouvant le fait qu'on est tous capables d'apporter quelque chose aux autres et donc on peut tous recevoir des autres. C'est en ça que je vois une certaine égalité. Et donc, peu importe où on se trouve, si on se trouve en interaction avec d'autres personnes, on va pouvoir apprendre des choses.
Ça, c'est super. Je pense qu'on pourra rester sur... On peut tous apprendre des autres. Merci beaucoup.
Merci pour ces réponses. Donc, nous pouvons lancer maintenant le documentaire réalisé par Fanny, Mao et Justine.
Donc, bonjour à tous. Avec Fanny, on va vous présenter notre documentaire. Donc, imaginez vouloir essayer... participer comme tout le monde, mais devoir fournir deux fois plus d'efforts pour suivre le rythme. Pour certaines personnes, c'est le quotidien. Nous parlons ici des personnes en situation de handicap. L'inclusion des personnes en situation de handicap est essentielle pour favoriser l'apprentissage, la communication et la participation à la vie sociale. C'est ce que nous allons explorer dans ce documentaire. En France, la question du handicap a connu une avancée majeure avec la loi du 11 février 2005. Cette loi affirme un principe essentiel : l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Elle prévoit notamment l'accessibilité des lieux publics, la compensation du handicap, ainsi que le droit à la scolarisation en milieu ordinaire, lorsque cela est possible. Elle rappelle également que la société doit s'adapter aux besoins des personnes en situation de handicap, afin de leur permettre de participer pleinement à la vie sociale. Voici un extrait du président Chirac en 2005.
Une société, vous savez, se juge à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles des siens, à sa capacité à conserver sa cohésion, à son aptitude à refuser l'exclusion d'où qu'elle vient.
Cela signifie que toute personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir accéder à l'école, à l'emploi, au transport, à la culture et aux loisirs. Voici deux nouveaux extraits d'Éléonore Lalou, conseillère municipale à Arras.
J'ai porté des projets inclusifs comme une salle de change mobile pour que les personnes qui sont en situation de handicap puissent se changer dans les meilleures conditions. On a inauguré aussi des procédures inclusives qui soient ABC pour les personnes qui sont en fauteuil, les personnes qui sont en petite taille comme moi, s'adaptent à moi et moi je m'adapte à eux.
C'est surtout en fait une adaptation commune. J'ai aussi appris à connaître ce qui lui correspondait mieux dans le travail. On est souvent dans des rythmes un peu effrénés dans le travail. En fait, Éléonore, elle nous apprend simplement aussi à des fois ralentir un peu le rythme et puis prendre le temps de poser les choses, les sujets, d'écrire quelques notes de compte-rendu et puis d'attendre avant de passer à un sujet suivant.
L'équité des chances ne signifie pas traiter tout le monde de la même manière. Elle consiste à donner à chacun les moyens adaptés pour participer pleinement à la vie sociale. Pour les personnes en situation de handicap, et notamment celles concernées par un handicap invisible, cela passe par des aménagements, de la compréhension et une meilleure accessibilité.
Cette équité concerne aussi les enfants, à l'école, mais également dans les loisirs. Et pour les enfants qui ont des troubles 10, par exemple, ces espaces peuvent être compliqués. On parle de handicap invisible, car ils ne se voient pas. Mais les difficultés sont bien réelles. Dans les clubs de sport ou accueil de loisirs, les consignes sont données à l'oral. Un enfant 10 peut avoir besoin que l'on reformule les consignes, qu'on lui montre ou qu'on lui laisse davantage de temps. Sinon, il peut rapidement se sentir en décalage ou ne pas se sentir à la hauteur. C'est là que l'inclusion prend tout son sens. Inclure, ce n'est pas faire à la place des personnes en situation de handicap. C'est adapter l'environnement, reformuler les consignes, utiliser des supports visuels et encourager l'entraide. C'est aussi aller plus loin. On parle de capacitation. Donner aux personnes les moyens de comprendre, d'exprimer leurs besoins et de prendre confiance. Cela rejoint une autre notion essentielle, l'autodétermination. Être inclus, ce n'est pas seulement être accueilli, c'est aussi pouvoir choisir, pouvoir dire « j'ai besoin de temps ». Voici un extrait de l'interview de Sandrine Bizeul de l'émission Educato « Apprendre autrement ».
Bonjour, je suis Sandrine, je suis en situation de handicap, je vais vous parler de l'autodétermination.
Alors Sandrine, c'est quoi l'autodétermination ?
L'autodétermination, c'est tu peux choisir pour toi, même si tu es en situation de handicap. Tu peux dire ce que tu veux, ce que tu penses.
Mais oui Sandrine, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ?
Par exemple, tu peux choisir tes lunettes, tes vêtements, tes dessins animés, tes activités, tes copains à l'école. Tu as le droit d'aller aux réunions à l'école avec tes parents. Et la maîtresse, tu peux dire ce que tu veux pour toi.
Aujourd'hui, le mouvement antivalidiste nous invite à changer de regard. Il rappelle que le problème ne vient pas des personnes en situation de handicap, mais d'une société encore largement pensée pour les personnes dites valides. L'enjeu n'est donc pas de corriger les personnes, mais de transformer l'environnement afin qu'il soit accessible à tous. Maintenant, on va vous passer l'extrait de Charlotte Puissieux, psychologue et autrice.
Le validisme, c'est le système de domination que subissent les personnes handicapées et qui va vraiment toucher toutes les sphères de leur vie quotidienne. Donc, je ne vais pas faire une liste, mais voilà, parce que ça serait forcément exhaustif. Mais voilà, c'est vraiment tout ce qui fait votre vie. Pour une personne handicapée, ça va être impacté et les personnes handicapées vont subir des discriminations. Nous, on estime bien sûr que la valeur d'une vie ne doit pas dépendre des capacités telles qu'elles sont lues par une grille validiste, à savoir Un individu ne doit pas forcément marcher, voir, entendre, avoir une intelligence qui rentre dans les cases des tests QI pour vivre et pour avoir des droits, pour être un sujet de droit, comme on disait, et pour pouvoir s'épanouir, en fait. Et pour ça, il faut vraiment, en effet, que la société lui en donne les moyens. Et pour nous, c'est une priorité politique. Et en fait, le validisme, c'est ça aussi. C'est qu'en fait, dans nos sociétés, les priorités politiques ne sont pas données à l'épanouissement des personnes dites handicapées. Et clairement, leur situation de discrimination est avant tout le fruit de choix politiques que nous, on veut changer.
La véritable inclusion ne consiste pas à demander aux personnes en situation de handicap de s'adapter, mais à transformer nos pratiques pour qu'elles soient accessibles dès le début. Ainsi, la loi de 2005 pose un cadre. Mais l'égalité des chances devient réelle lorsque, dans la vie quotidienne, chacun peut effectivement trouver sa place. Au final, l'inclusion des personnes en situation de handicap ne dépend pas seulement des lois ou des dispositifs. Elle dépend aussi de la manière dont la société se mobilise collectivement.
Merci Mao et Fanny. Nous allons pouvoir poursuivre maintenant sur le micro-trottoir avec Mathis, Hugo et Raoul.
Salut à tous, c'est Mathis. On se retrouve pour parler du micro-trottoir qui a été fait par Mathis, Raoul et Hugo. Donc j'ai envoyé mes deux envoyés spéciaux parler sur le sport et l'éducation populaire. Ils ont été dans Limoges, ils ont questionné quelques personnes, on va les écouter.
Oui, effectivement, on est parti se promener dans les rues de Limoges et on s'est dit qu'on allait justement s'arrêter dans une salle de sport afin de récolter des informations auprès de Mathilde qui est coach sportive et à qui nous avons demandé justement de parler sur ces sujets-là, et qui nous a donné quelques pistes intéressantes.
Oui, plusieurs lieux à l'éducation, on peut apprendre l'éducation chez soi directement, à l'école, il y a l'éducation qui peut être liée au sport, les valeurs du sport.
Alors voilà, comme Mathilde nous l'explique actuellement, on a différents lieux à l'éducation. On a l'éducation qui va être à la maison, donc celle de nos parents. L'éducation aussi qui va être à l'école, donc tout ce qui va être les apprentissages, ce qu'on pourrait appeler l'éducation nationale. Et ensuite, elle nous parle aussi de l'éducation par le sport. Et ce qui serait intéressant, ce serait d'aller questionner Eric, qui lui est un directeur de centre de loisirs, qui est donc un acteur jeunesse, pour voir ce qu'il va nous dire en tant que professionnel.
Oui, bien sûr, il y a plusieurs lieux pour l'éducation donc des enfants. Nous sommes dans un accueil de loisirs et on fait partie et on croit énormément en la coéducation. C'est-à-dire qu'on se positionne comme partenaire de l'éducation, au même titre que l'école, les parents, les copains. Voilà, on a de grosses valeurs autour de la coéducation et on y croit très fort.
Donc là, comme nous le dit Eric, donc il y a la coéducation aussi qui existe. La coéducation, c'est les professionnels de l'éducation nationale ou de l'animation ou autres personnes extérieures et la famille qui travaillent main dans la main pour éduquer les enfants. Et là maintenant, on va passer à Nadine. Nadine qui est une grand-mère et donc elle aussi, elle va pouvoir nous parler de l'éducation de ses petits-enfants et de ses enfants.
Oui, je pense, il y a l'école, bien évidemment, mais il y a aussi tout ce qui est centre d'animation, colonie de vacances, enfin voilà, ce genre de lieux, centre culturel, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de l'animation, des théâtres aussi, parce qu'il y a des stages aussi qui sont faits pour eux, de la musique, enfin voilà, il y a différents lieux.
Tiens, c'est vrai ça, les centres d'animation et les colonies de vacances, qu'est-ce que ça apporte en termes d'éducation aux enfants, Raoul ?
En termes de partage, de cohésion de groupe et même d'éveil, parce qu'il y a toujours une mixité culturelle et ethnique, et même de manière totalement exuée des cultures et des origines différentes, ça apporte également une vision du monde totalement différente sur chaque aspect de la vie, que ce soit pour les enfants mais aussi pour les professionnels qui y participent.
Ah, c'est vrai. C'est vrai. Après, maintenant, on va parler, après qu'on ait parlé des lieux où il y a de l'éducation, est-ce qu'on ne parlerait pas aussi des formes d'éducation qu'il peut y avoir ? Donc, c'est pour ça qu'on a posé cette petite question aussi à Mathilde.
À part l'éducation, l'éducation parentale, l'éducation scolaire, l'éducation, j'ai pas le nom, mais la vie de tous les jours au quotidien.
Mathilde nous parle de cette éducation de la vie au quotidien. Mais qu'en pense un directeur de centre de loisirs ?
Ah oui, il y a plusieurs types d'éducation. Je suis pas sûr et certain qu'il y en ait né meilleur que d'autres. Voilà, on adapte l'éducation à ce qu'on est en capacité de faire, à ce qu'on croit, à ce qu'on peut faire aussi. Voilà, après on essaie de travailler autour de grandes valeurs communes aux différents lieux d'éducation. Mais souvent on essaie de faire ce qu'on peut et au mieux, surtout pour l'enfant.
C'est vrai qu'on essaye de faire tout et tous au mieux pour les enfants parce que ce sont eux les citoyens de demain et donc à nous de les amener au mieux sur ce terrain-là. On cherche à les éduquer du mieux possible, mais c'est vrai qu'on a tous des manières de faire totalement différentes. Justement, est-ce que Nadine n'aurait pas quelque chose à nous dire à ce sujet ?
Ah, différents types d'éducation. Ben, on entend beaucoup parler d'éducation positive. Moi je suis grand-mère, donc je vois un petit peu la différence d'éducation que j'ai pu amener à mes enfants et ce que je vois chez mes petits-enfants.
Nadine nous parle, et à juste titre, d'éducation positive. Et toi Hugo, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors pour moi, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, selon Ali Rebi, qui a donné une définition au Conseil de l'Europe datant de 2006... L'éducation positive, c'est un comportement qui vise à élever l'enfant et à le responsabiliser, qui est non-violent, et qui lui fournit reconnaissance et assistance en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement.
Mais maintenant, après avoir parlé des lieux où il y a de l'éducation et les formes d'éducation, on va se centrer un peu plus sur le sport. Est-ce que le sport est une forme d'éducation ? Donc maintenant, on a posé cette question à Mathilde, notre coach sportive.
Oui, parce que ça peut transmettre des valeurs, des principes, et du coup, ça permet d'éduquer derrière un enfant aussi.
Et oui, tiens, Mathilde nous parle de valeurs du sport. Quelles sont les valeurs du sport, Hugo ?
Alors pour moi, les valeurs du sport, qui sont peut-être les plus importantes, il y aurait le dépassement de soi, l'ouverture à tous sans distinction, le respect des règles, très important, mais aussi l'égalité des concurrents au départ, l'incertitude du résultat est très important, mais aussi le fair play. Et Eric, qu'est-ce qu'il en pense ?
Alors oui, le sport est une forme d'éducation populaire, puisque à travers le sport, on trouve une forme de mixité, que ce soit sociale, plein de valeurs aussi qui sont transmises par le sport, quelle que soit l'activité. Outre bien sûr les bienfaits en plus physiques et mentaux du sport pour les enfants et leur développement. Mais oui, effectivement, on retrouve aussi de grandes valeurs à travers le sport.
Tiens, Eric, il nous parle d'éducation populaire. Raoul, c'est quoi l'éducation populaire ?
Comme dit précédemment, et pour rappel, il n'existe pas de bonne ou de mauvaise réponse en termes de définition d'éducation populaire. Mais j'apprécie cette version-là qui dit que l'éducation populaire est un courant éducatif visant à diffuser la connaissance pour permettre à chacun de s'épanouir et de devenir un citoyen actif en complément de l'enseignement formel.
Après ces deux petites réponses de Eric et de Mathilde, on va passer à Nadine. Nadine qui travaille dans un bureau d'une association sportive autour de Limoges. Et toi Nadine, qu'est-ce que t'en penses ?
Ah oui, complètement, complètement. Oui, ça, je pense que tout au long de la vie... Enfin, de la petite enfance à la fin de la vie, je pense que c'est vraiment essentiel, quoi. En termes d'équilibre, en termes d'apprentissage, de vie en communauté, de partage, voilà, de valeurs, oui, c'est sûr.
Eh bien, merci à Mathilde, Eric et Nadine de nous avoir apporté toutes leurs connaissances à propos du sport et de l'éducation. Je me tourne vers vous maintenant, Stéphanie. En tant que présidente des CMEA Nouvelle-Aquitaine, pensez-vous que le sport participe à l'éducation populaire ?
Le sport peut participer à l'éducation populaire avec les valeurs du sport que vous avez énoncé tout à l'heure et aussi avec tout ce que ça peut apporter d'éducatif, de respect de règles, de respect de l'autre, de respect des équipes. Et donc le sport peut participer, enfin peut être une activité d'éducation populaire si on ne le pousse pas dans des retranchements de compétition, par exemple, qui là peuvent être un peu moins dans l'éducation populaire.
Eh bien, merci à vous.
Il est l'heure pour nous de vous quitter en vous remerciant pour votre écoute. On remercie également Stéphanie, la présidente des CMEA de la région de Nouvelle-Aquitaine. Passez une excellente journée et à bientôt sur Bob FM.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les man, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Bien fort, use tes cordes vocales.
Pas de boulot,
pas de diplôme.
Partout la même odeur de zone.
Plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas, ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain.
C'est l'hymne de nos campagnes.
Ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien. Comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie humaine, du monde animal.
Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi pris dans vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène mérite-t-il les coups de hache qui le saignent?
Lève la tête, regarde ses feuilles. Tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal.
Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire. Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Mais si le béton est ton avenir,
dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires.
J'aimerais pour tous les animaux
que tu captes le message de mes mots.
Car en lopin de terre,
une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots.